Chapitre 52. Des bottes. Elaine se cala confortablement sur la selle de miroir. Cette jument blanche du Saldaea à la magnifique crinière était le joyau des écuries royales. Ornée de motifs rouges et or, la selle aussi était un petit bijou. Le genre qu'on utilise pour un triomphe. Birgit chevauchait le vent, qui comptait lui aussi parmi les meilleurs destriers des écuries. De vraies flèches tous les deux. Birgit les avait choisies surtout pour ça, car elle s'attendait à devoir galoper. La championne portait autour du cou une copie du médaillon de Matt. D'une forme différente cependant, avec une rose du côté face. Dans sa poche, Elaine en cachait une autre, enveloppée dans du tissu. Le matin même, elle avait tenté d'en fabriquer une nouvelle, mais le bijou avait fondu, manquant flanquer le feu à sa coiffeuse. Sans avoir l'original pour modèle, c'était beaucoup plus compliqué. En d'autres termes, son rêve, en distribué à toutes ses gardes du corps, n'était pas près de se réaliser, sauf si elle parvenait à convaincre Matt de lui confier de nouveau son médaillon. Sur la grande place du palais, la garde rapprochée d'Elaine les entourait, Birgit et elle. 100 soldats en tout, 75 gardes masculins et 25 féminins. Une escorte réduite, mais dont elle se serait bien passée si elle avait pu. En aucun cas, il ne fallait qu'on puisse la prendre pour une conquérante.
« Je n'aime pas ça, » maugréa Birgit. « Tu détestes tout ces derniers temps. De jour en jour, tu deviens de plus en plus irritable. Parce que tu es de plus en plus folle et inconsciente. Allons, n'exagère pas. J'ai déjà fait des choses plus idiotes.
Oui, parce que tu n'as jamais reculé devant rien.
Tout ira bien, tu verras. »
fit la reine, en tournant la tête en direction du sud.
« Pourquoi regardes-tu sans cesse par là ?»«
Rand, »
souffla Elaine. De nouveau, elle sentait la chaleur qui émanait du nœud d'émotion dans un coin de son esprit.
« Il se prépare pour quelque chose. Et il est troublé, mais en même temps très serein. »
Lumière, cet homme était si déconcertant. Si le délai d'origine était maintenu, la rencontre aurait lieu le lendemain. Et Gwen avait raison, briser les sceaux serait de la folie. Mais Rand entendrait la voix de la sagesse. Alice était de l'expédition, accompagnée par 3 membres de la famille. Sarazia, une femme replète aux allures maternelles, Kenna à la peau noire et aux cheveux tressés, et la superbe Nashia au visage juvénile. Toutes 4 prirent position sur les flancs d'Elaine. 2 seulement étaient assez puissantes pour ouvrir un portail. Dans la famille, on était en moyenne plus faible que parmi les sœurs. Mais ça suffirait si Elaine, par malheur, ne parvenait pas à s'unir à la source.
Vous pouvez faire quelque chose pour empêcher des archers de la cribler de flèches?
Demanda Birgit à Alice.
Un genre de tissage?
Alice inclina pensivement la tête.
J'en connais un qui pourrait aider, mais je ne l'ai jamais essayé.
Une autre femme de la famille venait d'ouvrir un portail devant la colonne. Il donnait sur une prairie jaunie et desséchée, à l'extérieur de Kyrienne. Une petite armée attendait là, chaque homme portant la cuirasse et le casque en forme de cloche réglementaire dans les rangs kyrienniens. Avec leur uniforme sombre rayé aux couleurs de leur maison, les officiers étaient faciles à repérer. Et ils portaient des fanions qui dépassaient de leur dos. En uniforme vert rayé de pourpre, Lorstrum se tenait en tête de ses troupes. Bertom occupait la même position devant les siennes. 2 forces de taille équivalente, 5000 hommes chacune. Les 4 autres maisons avaient envoyé des contingents plus réduits.
« S'ils veulent te faire prisonnière, » marmonna Birgit, « tu leur en offres l'occasion sur un plateau. »
« Il n'y a aucune façon de réussir ça sans prendre de risques, »
rappela la reine.
« Sauf si je décidais de rester au palais et de lancer mon armée dans l'aventure, avec pour résultat une rébellion aux Kyrienne et la fin de mon règne en Andorre. »
Elle regarda sa championne.
« Je suis couronnée, Birgit. Tu ne pourras plus me tenir loin du danger. Pas plus que tu pourrais protéger un soldat donné sur un champ de bataille. »
Birgit acquiesça.
« D'accord. Mais reste bien à côté de moi et de Gibbon. »
Monté sur un hongre tacheté, le fidèle Gibbon approchait, justement. Avec Birgit sur un flanc et l'officier sur l'autre, chacun ayant une monture plus grande que la sienne, un éventuel tueur aurait une très mauvaise ligne de tir. Risquer la vie de ses amis pour protéger la sienne, ce serait le lot d'Elaine jusqu'à la fin de ses jours, désormais. Elle talonna miroir et, suivie par son escorte, franchit le portail pour fouler le sol du Kyrienne. Les dames et les seigneurs kairiéniens, tous à cheval, s'inclinèrent pour saluer la reine, avec une ferveur nouvelle, comparée à ce qui s'était passé lors de la précédente rencontre dans la salle du trône. Le spectacle venait de commencer. La cité était toute proche, ses murs encore noircis après le combat contre les Shaido. Alors que le portail se dissipait dans leur dos, Elaine sentit la tension de sa championne. Les membres de la famille s'unirent à la source. Alise, quant à elle, réalisa un tissage assez inhabituel, un petit tourbillon qui soufflait autour de la reine et de sa garde rapprochée. Très vif, il dévirait les flèches. L'anxiété de Birgit étant contagieuse, Elaine se surprit à serrer ses rênes, à s'en faire blanchir les phalanges. À Kairien, sous un ciel plombé, l'air était plus sec et sentait la poussière. Des soldats kairieniens formèrent un cercle autour du petit groupe d'Andoriens en uniforme blanc et rouge. En majorité, les forces du Kairien étaient composées de fantassins, mais il y avait aussi un escadron de cavalerie lourde. Sur leurs montures caparaçonnées, des hommes pointaient leurs lances vers le ciel. En rangée impeccable, ils protégeaient Elaine, ou la gardaient déjà prisonnière. Sur son étalon bai, Lorstrum approcha du premier cercle des défenseurs de la reine. Interrogée du regard par Gibbon, Elaine fit signe de laisser passer le seigneur.
« La ville est sur les dents, majesté, » dit Lorstrum.
Birgit prit la précaution de placer sa monture entre celle du Kyrienien et la jument d'Elaine.
« Il y circule des rumeurs désobligeantes sur votre ascension. »«
Des rumeurs que tu as probablement lancées, » pensa la fille de Morgaz, « avant de changer d'avis et de me soutenir. »«
Le peuple ne se révolterait pas contre les troupes de Kyrienne, quand même. »
« Je l'espère. »
Sous sa coiffe verte, le seigneur dévisagea Elaine. Comme il était de mise ici, il portait une redingote noire ornée sur le devant de rayures aux couleurs de sa maison. Le genre de tenue qu'il aurait choisi pour aller au bal. Une façon d'exprimer sa sérénité. Ses forces n'entendaient pas conquérir la ville, mais seulement honorer la nouvelle reine.
« Je doute qu'il y ait une résistance armée, mais je tenais à vous prévenir. »
Lorstrum s'inclina respectueusement. Conscient d'être manipulé, il acceptait la manœuvre et jouait le jeu. Dans les années à venir, Elaine aurait intérêt à garder un œil sur lui. Tout en ligne droite et en tours fortifiées, Kairien était une cité fonctionnelle. On y trouvait de beaux spécimens d'architecture, mais sans comparaison possible avec Kemlin ou Tarvalon. La rivière Algenia sur sa droite, la colonne franchit les portes septentrionales. Une foule attendait dans les rues. Sur ce plan, Lorstrum et les autres avaient bien fait leur travail. Des vivats retentirent, sûrement encouragés par des courtisans soigneusement postés. Elaine en fut néanmoins surprise. Elle s'attendait à de l'hostilité. Et il y en avait, par exemple sous la forme de détritus jetés sur la colonne depuis les tréfonds de l'assistance. Et des insultes fusaient parfois, mais dans l'ensemble, l'atmosphère était à la joie. Alors qu'elle descendait une large avenue flanquée de ces bâtiments rectangulaires dont les Kairieniens raffolaient, Elaine s'avisa que les gens, peut-être, attendaient un événement de ce genre. Qui sait s'ils n'en discutaient pas, faisant circuler des fadaises. Celle, justement, dont Nori s'était fait l'écho. Aujourd'hui, l'humeur se révélait davantage à l'inquiétude qu'à la résistance. Après la mort du roi, ses assassins courant toujours, le seigneur dragon semblait avoir abandonné les Kairieniens à leur sort. Elaine se sentit plus confiante que jamais. Kairien était une ville blessée, comme en témoignaient les vestiges de la porte principale. Ici, afin d'être jeté du haut des murs, des pavés avaient été arrachés et jamais remplacés. On eût dit que la ville ne s'était pas vraiment remise de la guerre des Aiel. Les échafaudages oubliés, aux environs des tours tronquées, étaient une manière très directe de le clamer sur tous les toits. Ce maudit grand jeu restait un fléau majeur. Elaine pourrait-elle y changer quelque chose? Comme si elle savait dans quel bourbier s'était fourré leur nation, les foules dont la jeune reine entendait les cris de joie semblaient conscientes que leur patrie était au bord du gouffre. Mieux valait tenter de voler les lances d'un Aiel plutôt que de priver les Kairieniens de leur lucidité. Mais ces gens, Elaine entendait leur apprendre la vraie loyauté, celle qui s'attachait au pays et au trône. À condition que ceci soit digne d'allégeance, bien entendu. Le palais du soleil se dressait au centre exact de la ville. Comme le reste, il était carré et anguleux, mais ici, ses caractéristiques ajoutaient à sa force et à sa grandeur. Malgré l'aile détruite, là où avait eu lieu l'attentat contre Rand, le palais restait un bâtiment qui en imposait. D'autres nobles attendaient ici, devant des calèches ornementées ou sur des marches de marbre. Parmi les femmes en jupe à crinoline et les hommes en veste sombre, pas mal semblaient sceptiques, et d'autres franchement étonnés. Hélène coula à Birgit un regard satisfait.
« Ça fonctionne. Personne ne s'attendait à me voir arriver avec une escorte kyrillienne. »
Birgit ne répondit pas. Très tendue, elle le resterait, tant que son Aes Sedai ne serait pas retourné à Kemlin. Deux femmes attendaient debout au pied des marches. L'une, très belle, avait des clochettes dans les cheveux. Sous ses boucles sombres, l'autre ne ressemblait pas à une Aes Sedai. Pourtant, elle portait le châle depuis des années. Sachal Anderli et Samitsu Tamagowa. D'après ce que les agents d'Elaine avaient réussi à glaner, ces deux femmes, ici, étaient ce qu'on pouvait trouver de plus proche de dirigeantes durant l'absence de Rand. Elaine avait correspondu avec les deux, trouvant Sachal remarquablement doué pour comprendre la façon de penser des Kyrieniens. Elle avait offert la ville à la jeune reine, mais en soulignant que se la faire donner et la prendre étaient deux choses différentes, et qu'elle en avait pleinement conscience. Sachal avança à la rencontre d'Elaine.
« Votre Majesté, »
dit-elle, protocolaire jusqu'au bout des ongles,
« sachez et faites savoir que le Seigneur Dragon vous concède tous les droits de revendiquer ce royaume. Le contrôle de fait qu'il exerçait dessus vous revient, et dès cette minute, il n'y a plus de régent aux Kyriennes. Puissiez-vous régner pacifiquement et avec une grande sagesse. »
Sur sa selle, Elaine hocha la tête dignement. Intérieurement, elle fulminait. Pour s'approprier la couronne, elle avait bien dit qu'elle ne cracherait pas sur l'aide de Rand, mais elle ne voulait quand même pas qu'il en rajoute. Pourtant, Sachal semblait prendre sa position très au sérieux. Certes, mais d'après ce qu'Elaine avait découvert, cette position, elle se l'était en très grande partie accordée elle-même. Elaine et ses compagnons mirent pied à terre. Rand croyait-il que lui offrir le trône serait aussi facile que ça? Non. Car il avait séjourné assez longtemps ici pour savoir comment fonctionnait ce peuple. La proclamation d'une seule Aes Sedai serait loin de suffire. En revanche, le soutien direct de puissants nobles du cru devrait faire l'affaire. La petite délégation s'engagea sur les marches. Quand elle entra dans le palais, chacun des soutiens d'Elaine ajouta à son escorte une garde d'honneur de 50 soldats. Elaine ne laissa aucun de ses compagnons dehors. La place serait bondée, mais elle entendait amener tout son monde. À l'intérieur, les couloirs étaient droits, avec des plafonds voûtés et des moulures dorées. Sur chaque porte, le symbole du soleil levant s'affichait fièrement. Dans des niches, on aurait dû pouvoir admirer des objets de valeur, mais une partie manquait. Au palais, les aïels avaient prélevé leur cinquième. Avant l'entrée du grand hall, les gardes andoriens et andoriennes de la reine se placèrent de chaque côté du couloir pour lui faire une haie d'honneur. Après avoir pris une grande inspiration, Elaine entra dans la salle du trône avec une suite de 10 personnes. Sur les flancs de la salle, des colonnes de marbre veinées de bleu s'élevaient jusqu'au plafond. Le trône du soleil, lui, reposait sur son estrade de marbre bleu, comme le mur du fond. En bois couvert de peinture dorée, ce siège était étonnamment modeste. C'était peut-être pour ça que Laman avait décidé de s'en faire fabriquer un nouveau, en utilisant comme matériau le trône d'Avendoraldera. Elaine avança jusqu'à l'estrade, puis se retourna au moment où les nobles kyrieniens entraient, ses soutiens passant en premier. Les autres suivaient par ordre d'importance, selon les règles compliquées et contraignantes du Daes Daimar. Une hiérarchie susceptible de changer d'un jour à un autre, voire d'une heure à la suivante. Birgit étudia chaque seigneur ou dame qui entrait, mais les kyrieniens étaient des modèles de retenue et de courtoisie. Aucun ne risquait de faire montre de l'audace d'une Elorienne en Andorre. Cela dit, même si elle continuait à contredire Elaine, cette femme était une authentique patriote. Aux Kyriennes, les gens ne s'engageaient pas ainsi. Quand l'assistance fut en place, Elaine inspira de nouveau à fond. Elle avait envisagé un discours, mais Morgaz lui avait enseigné que les actes, bien souvent, valaient mieux que les tirades. Du coup, elle alla s'asseoir sur le trône. Enfin, elle fit mine, parce que Birgit la retint par le bras. Elaine l'interrogea du regard, mais la championne étudiait déjà le siège.
« Un instant, »
dit-elle en se penchant. Les nobles murmurèrent entre eux, et Lorstrum monta sur l'estrade.
« Majesté. »«
Birgit, »
fit Elaine, sentant qu'elle s'empourprait.
« Est-ce vraiment nécessaire ?»
Ignorant son Aes Sedai, la championne tribota le coussin posé sur l'assise du siège. « Lumière.
Cette femme avait-elle décidé d'embarrasser Elaine dans toutes les situations possibles et imaginables? Sans aucun doute, le...
« Je le savais !»
s'écria Birgit en tirant quelque chose du coussin. Elaine sursauta puis avança, Lorstrom et Bertom à ses côtés. La championne brandit une petite aiguille.
« Caché dans le coussin !»
Elaine blêmit.
« Le seul endroit où ils étaient sûrs que tu serais, Elaine !»
souffla Birgit. Elle s'agenouilla et chercha d'autres pièges. Lorstrom avait rougi jusqu'à la racine des cheveux.
« Majesté, je trouverai les coupables, »
dit-il à voix basse mais menaçante.
« Et ils goûteront à ma colère.
S'ils n'ont pas d'abord goûté à la mienne, »
fit Bertom en étudiant l'aiguille, les yeux plissés.
« Majesté, »
dit Lorstrom d'un ton normal pour que tout le monde entende.
« C'est sans doute une tentative d'assassinat qui visait le dragon réincarné. Nul ici ne tenterait de tuer notre bien-aimée sœur Andorienne. »
C'est rassurant à entendre.
Fit Elaine, les yeux rivés sur le noble. À son expression, chacun dans la salle comprit qu'elle entrait dans le jeu de Lorstrom pour l'aider à sauver la face. Étant le premier soutien de la jeune reine, la honte de cette tentative de meurtre retombait sur lui. Lui sauver la mise était une chose, mais ce ne serait pas gratuit. Le comprenant, Lorstrom baissa brièvement les yeux. Lumière, qu'est-ce qu'Elaine détestait ce jeu? Mais elle y jouerait, et elle serait la meilleure.
« Birgit, je ne risque plus rien ?»
demanda Elaine. La championne se massa le menton.
« Il n'y a qu'une façon de le savoir. »
Sur ces mots, elle se laissa lourdement tomber sur le trône. Plusieurs nobles ne purent retenir un petit cri, et Lorstrom vira à l'écarlate.
« Pas très confortable, »
dit Birgit. Elle se pencha sur le côté, puis s'adossa au siège.
« J'aurais cru qu'un trône serait plus rembourré. Avec ton postérieur sensible, tu vas souffrir. »
« Birgit !» s'indigna Elaine, de nouveau rouge comme une pivoine.
« Tu ne peux pas te prélasser sur le trône du soleil. Ne suis-je pas ta garde du corps? Le cas échéant, je peux goûter ta nourriture, passer les portes avant toi et m'asseoir sur ce fichu trône, si je pense que ça te protégera. »
Elle sourit.
« En plus, »
ajouta-t-elle à voix basse,
« j'ai toujours voulu savoir comment on se sentait là-dessus. »
Elle se leva, toujours inquiète, mais satisfaite d'elle-même. Elaine se tourna pour faire face au noble du Caerien.
Vous avez attendu longtemps cet instant,
dit-elle.
Certains d'entre vous sont mécontents, mais n'oubliez pas qu'une moitié de mon sang est caerienienne. Cette alliance renforcera nos deux nations. Je n'exige pas votre confiance. En revanche, j'entends que vous m'obéissiez.
Elle hésita, puis ajouta.
Souvenez-vous, c'est ainsi que le dragon réincarné veut que les choses soient.
Elle vit que l'assistance comprenait. Rand avait déjà conquis cette capitale, même si c'était pour la libérer des Shaido. Ses habitants avaient tout intérêt à ne pas l'inciter à revenir pour répéter l'opération. Une reine devait se servir des outils à sa disposition. Andorre, Elaine s'en était emparée seule. Pour le Caerien, finalement, elle consentirait à accepter l'aide de Rand. Elle s'assit. Un geste simple, mais aux énormes implications.
Rassemblez vos gardes personnels et ceux de vos maisons,
dit-elle aux nobles.
« Avec les forces d'Andorre, vous franchirez un portail pour arriver en un lieu appelé le Champ de Merilor. Là, nous rencontrerons le dragon réincarné. »
Les nobles parurent surpris. Le même jour, elle arrivait, s'appropriait le trône et prenait le commandement de toutes les forces armées. Elaine sourit. Agir vite et sans hésiter inciterait ces gens à lui obéir en toutes circonstances. Une façon, en outre, de les préparer à l'ultime bataille. Les seigneurs et les dames commencèrent à murmurer entre eux, mais elle leur intima le silence.
« Je veux aussi que vous dénichiez tous les hommes capables de tenir une épée, et que vous les intégriez à l'armée de la reine. Ils n'auront pas beaucoup de temps pour se former, c'est sûr. Mais lors de l'ultime bataille, chaque homme comptera, et chaque femme aussi, avis à celle qui aurait des envies de se battre. Convoquez aussi tous les fondeurs de cloches de la ville. Je leur parlerai dans une heure. »
« Mais, »
fit Bertom,
« les festivités du couronnement...
« Nous célébrerons ça une fois l'ultime bataille remportée, quand les enfants du Caerien seront en sécurité. »
Pour détourner ces gens de leur machination, il fallait les occuper en permanence.
« Exécution ! Faites comme si l'ultime bataille se tenait devant votre porte, pour y frapper dès demain matin. »
Ce qui était en gros le cas. Adossé à un arbre mort, Matt observait son camp.
Inspirant et expirant à fond, il savourait le merveilleux sentiment de ne plus être un homme traqué. À force, il avait oublié ce que ça faisait. Eh bien, c'était encore plus agréable que d'avoir une jolie serveuse sur chaque genou. Enfin, que d'en avoir une seule, sûrement. Un camp militaire, le soir, était un des lieux les plus confortables du monde. Même quand il se trouvait à moitié vide parce que les soldats faisaient la fête à Kairienne. Le soleil étant couché, une bonne partie de ceux qui restaient dormaient. Mais pour les gars qui seraient de service en soirée, le lendemain, il n'y avait aucune raison de se mettre au lit tôt. Une dizaine de feux crépitaient encore. Autour, des bras rouges se racontaient leurs exploits, évoquaient leurs femmes laissées en arrière ou partageaient des rumeurs venues du bout du monde. Assis sur des souches ou des rochers, ils riaient à la lueur des flammes. De temps en temps, avec une petite branche tordue, ils attisaient les braises, en voyant danser dans les airs un balai d'étincelles. Parfois, ces braves types se réchauffaient le cœur en entonnant des chansons comme « Venez belle dame » ou « Des saules abattus à minuit ». Ces héros appartenaient à une dizaine de nations différentes, mais leur vraie patrie, c'était ce camp. Matt passa entre eux, chapeau sur la tête et hachan d'areille à l'épaule. Pour sa gorge, il s'était dégoté un nouveau foulard. Tout le monde savait au sujet de sa cicatrice, mais ce n'était pas une raison pour l'exhiber comme une des fichues roulottes de Luca. Son foulard, cette fois, était rouge, en hommage à Tailin et aux autres victimes du Golam. Un moment, il avait été tenté d'opter pour du rose, un très court moment. Matt sourit. Même si des chansons montaient de plusieurs feux de camp, personne ne beuglait, et le secteur restait sainement paisible. Pas silencieux. Le silence, ce n'était jamais bon. D'ailleurs, il le détestait. Chaque fois, ça l'incitait à se demander qui se préparait à lui sauter dessus. Non, ce soir, le camp était tranquille. Les ronfleurs se montraient discrets, les feux crépitaient mezza voce. Des hommes chantaient, et des brindilles craquaient sans ostentation sous les semelles des sentinelles. Les sons sereins d'un camp heureux de vivre. Ayant trouvé son chemin jusqu'à la table installée devant sa tente obscure, Matt s'assit et étudia les documents qu'il avait posés sur le meuble. À l'intérieur, on étouffait, et il n'avait pas voulu réveiller Oliver. La toile de la tente bruissait sous les assauts cléments du vent. Son bureau n'était vraiment pas commun. Alors que la table et la chaise reposaient sur un carré de chien dents pied de poule, un pichet de cidre attendait sur le sol, juste à côté. Sur la table, les documents étaient lestés avec des pierres et éclairés par une unique lampe à la lueur vacillante. Matt jeta les pierres au loin. Il n'aurait pas dû devoir se battre contre des montagnes de paperasse. Idéalement, il aurait dû être assis autour d'un des feux, en train de chanter « Danser avec le grand faucheur ». Justement, des gars fredonnaient cet air, pas très loin de lui. La paperasse. Eh bien, il avait accepté l'offre d'emploi d'Elaine, et les contrats de ce genre étaient toujours accompagnés d'une tonne de circulaires, de notes et de factures. Sans parler de tout ce qui concernait les servants des dragons, l'approvisionnement et les rapports disciplinaires. Un océan d'âneries. Dans le lot, il y avait quelques textes subtilisés à sa royale majesté. Des comptes rendus d'espions que Matt avait bien envie de consulter. Au sujet des Séanchaniens, surtout. Pour lui, la plupart de ces nouvelles n'avaient plus rien de nouveau. Grâce au portail de Vérin, il avait voyagé jusqu'à Kemlin plus vite que la plus grande partie des rumeurs. Mais Elaine aussi disposait de portails. Et certaines informations sur Théar et sur Liliane étaient vraiment récentes. Par exemple, on y évoquait la nouvelle impératrice du Séanchan. Donc, Tuon avait réussi à se faire couronner, ou quoi que ce soit que puisse traficoter les Séanchaniens pour nommer une dirigeante. Matt ne put s'empêcher de sourire. Ces pauvres Séanchaniens ne se doutaient pas de ce qui les attendait. Ils croyaient le savoir, sans doute, mais Tuon les surprendrait, aussi sûrement que le ciel était bleu. Bon, d'accord, il était nettement gris ces derniers temps. On parlait aussi d'une alliance entre le peuple de la mer et les Séanchaniens. Là, Matt n'y croyait pas une seconde. Certes, les Séanchaniens avaient arraisonné assez de navires des Hata admirés pour donner cette impression. Mais c'était une fausse nouvelle. Matt parcourut aussi plusieurs rapports sur Rand. Au mieux imprécis, au pire indigne de confiance. Les maudites couleurs tourbillonnèrent. Assis sous une tente, Rand conversait avec des gens. Était-il en Arad Doman? Mais comment aurait-il pu, en même temps, être en train de se battre dans les terres frontalières? Une rumeur allait même jusqu'à prétendre qu'il avait tué Tailin. Quel décérébré avait pu accoucher de cette idée? Au moins, dans cette vision, Rand était habillé. Le dernier rapport se révéla intrigant. Des loups couraient par meutes, des énormes meutes, se réunissaient dans des clairières et hurlaient à la mort. La nuit, le ciel tournait au rouge. Partout, les troupeaux se mettaient en rang dans les champs, toujours face au nord. Dans des prairies, on retrouvait les traces du passage d'armées de créatures des ténèbres. Ces âneries étaient des ragots que les fermières racontaient aux autres fermières et qui finissaient par atteindre les oreilles des espions des Gwen. Matt contempla pensivement cette ultime feuille. Puis, sans vraiment y penser, il s'avisa qu'il avait sorti de sa poche la missive de Vérin. De plus en plus froissée et sale, la lettre demeurait fermée. Pourtant, l'envie de l'ouvrir taraudait Matt. Y résister était un exploit permanent.
« Eh bien, quelle vision inhabituelle !»
lança une voix féminine. Matt leva les yeux et vit que Sétal approchait, le corsage lacé de sa robe marron mettant en valeur son opulente poitrine. Donc Matt, un homme marié, passa son temps à la reluquer.
« Tu aimes mon antre ?»
demanda Matt. Il posa la lettre sur un côté, puis ajouta le dernier rapport sur une pile, à côté d'une série de croquis esquissant les plans d'une nouvelle arbalète inspirée de celle que Talmanes avait apportée. Les documents menaçaient de s'envoler. N'ayant plus rien pour les lester, Matt retira une de ses bottes et s'en servit comme d'une pierre.
« Ton antre ?»
répéta Sétal, amusé.
« Et comment ?»
répondit Matt, en gratouillant son pied désormais déchaussé.
« Si tu veux y entrer, il faudra prendre un rendez-vous avec mon secrétaire. »«
Ton secrétaire ?»«
Pas la petite souche là, mais la grande, celle qui est couverte de mousse. »
Sétal arqua un sourcil.
« Un vrai cerbère qui n'a jamais laissé passer quelqu'un que je ne voulais pas voir. »«
Tu es un homme intéressant, Matrim Cotton, »
dit Sétal. Elle s'assit sur la plus grande souche. Dans le pur style des Boudards, sa robe était relevée sur un côté, pour dévoiler des jupons si colorés qu'un Zingaro se serait enfui à toutes jambes.
« Tu veux quelque chose de spécial ?»
demanda Matt.
« Où es-tu venu pour le plaisir de te percher sur la tête de mon secrétaire ?»
On dit que tu es allé une fois de plus au palais ce matin. Est-il vrai que tu connais la reine ?
Matt haussa les épaules.
Hélène est une assez gentille fille. Très jolie, ça c'est sûr.
Tu ne réussiras plus à me choquer, Matrim Cotton,
dit Sétal.
Avec un peu de retard, j'ai compris que tes piques visaient cet objectif.
Sans blague ?
Maîtresse Anan, je dis toujours ce que je pense. En quoi ça t'importe que je connaisse la reine ou non ?
« Eh bien, c'est une pièce de plus du puzzle nommé Matrim Cotton. Aujourd'hui, j'ai reçu une lettre de Jolene.
Que te veut-elle ? » ?»«
Elle ne me demande rien. Elle voulait juste nous informer de l'arrivée de son groupe à Tarvalon. »«
Tu as sûrement mal lu quelque chose. »
Sétal coula un regard réprobateur au jeune insolent.
« Jolene Sedai te respecte, Maître Cotton. Elle ne tarit pas d'éloges sur toi.
Surtout quand il est question de la façon dont tu les as secourus, ses deux compagnes et elle. »
« Dans sa lettre, elle me demande de tes nouvelles. »
Matt en scia de surprise.
« Sans blague ? Et elle dit des gentillesses à mon sujet ?»
Sétal fit oui de la tête.
« Que la lumière me brûle ! Encore un peu et je me repentirais de lui avoir teint la bouche en bleu. Cela dit, avec la façon dont elle me traitait, j'étais loin de penser que...
Dire de telles choses à un homme l'incite à avoir la grosse tête. On pourrait croire que sa façon de te traiter aurait suffi.
C'est une Aes Sedai, »
marmonna Matt.
Elle nous considère tous comme une souillure debout sur la semelle de ses bottes.
Sétal foudroya Matt du regard. Cette femme avait quelque chose de régalien. En elle cohabitaient une grand-mère, une dame de la cour et une solide aubergiste à qui on ne la faisait pas.
Désolé,
dit Matt.
Certaines Aes Sedai sont moins mauvaises que d'autres. Je n'avais pas l'intention de t'insulter.
Je prendrai ça comme un compliment,
fit Sétal.
Même si je ne suis pas une Aes Sedai.
Matt haussa les épaules et remarqua une très jolie pierre. La ramassant, il s'en servit pour remplacer sa botte sur la pile de documents. Depuis qu'il ne pleuvait plus, on ne mourait pas de chaud pour autant.
« Tu dis que ça ne t'a pas blessé, »
fit Matt.
« Mais alors, qu'est-ce que ça fait, cette chose que tu as perdue ?»
Sétal s'autorisa un sourire.
« Quel est ton plat préféré, Maître Cotton ? Celui que tu ne donnerais en échange de rien ?»«
La tourte sucrée de ma mère. »
répondit Matt sans hésiter.
Eh bien, c'est tout à fait ça,
fit Sétal.
Se rappeler qu'on dégustait jadis une tourte tous les jours, mais savoir qu'on n'y aura plus droit. Tes amis, eux, ils peuvent se goinfrer avec cette tourte. Tu les envies et tu souffres. mais en même temps, tu jubiles. Au moins, quelqu'un appréciera ce qui t'a été refusé. »
Matt hocha lentement la tête.
« Pourquoi détestes-tu les Aes Sedai, Maître Cotton ?»«
Je ne les hais pas, »
assura Matt.
« Que la lumière me brûle, c'est la stricte vérité. Mais parfois, un homme semble incapable de faire deux choses, sans que des femmes lui demandent d'en aborder une d'une façon différente et de laisser tomber l'autre. Personne n'est forcé de s'enquérir de leur avis. Mais crois-moi, quand elles le donnent, on ne tarde jamais à reconnaître sa pertinence. »
Matt haussa les épaules.
Parfois, un homme aime bien faire ce qu'il veut, sans qu'on lui rabâche à longueur de journée ce qui cloche avec son boulot et ce qui ne va pas chez lui. C'est tout.
Et ça n'a rien à voir avec ta vision très particulière des nobles.
Après tout, la plupart des Aes Sedai se comportent comme si elles étaient de haute naissance.
Je n'ai rien contre les nobles,
dit Matt en tirant sur sa veste.
Simplement, je n'ai aucune envie d'en devenir un.
Où est le problème alors?
Matt resta silencieux un moment, puis il baissa les yeux sur son pied, de plus en plus gelé, et remit sa botte.
Ce sont les bottes.
Les bottes?
Répéta Sétal, largué.
Oui, les bottes. Tout ça est une affaire de bottes.
Mais,
tu vois,
fit Matt en finissant de lasser sa botte.
Beaucoup d'hommes n'ont pas à se demander quelles bottes ils mettront un jour donné. Ce sont les pauvres parmi les pauvres. Si tu demandes à l'un d'eux, hey, « Hé, mon gars, quelle paire de bottes vas-tu porter aujourd'hui ?» Il n'aura aucun mal à te répondre. « Eh bien, Matt, comme je n'ai qu'une paire, je pense sérieusement à opter pour celle-là. »
Le jeune flambeur hésita.
« Enfin, si c'est toi qui demandes, il ne te répondra pas comme ça, parce que tu n'es pas moi. Je veux dire que le type ne t'appellera pas Matt, tu comprends ?»«
Je crois, oui. »
fit Sétal, amusé.
« Cela posé, dès qu'on a un peu d'argent, la question de la paire de bottes à choisir devient plus compliquée. Les gens moyens, comme moi... »
Il dévisagea Sétal.
« Parce que je suis un type moyen, pas vrai ?»«
Bien entendu.
Je ne te fais pas dire. »
Sa botte bien lassée, Matt se redressa.
« Un type moyen, donc, peut avoir trois paires de bottes. La première, c'est celle qu'on porte quand on doit se charger d'un travail désagréable. Si elle peut faire mal à chaque pas, voire être trouée, elle reste assez bonne pour qu'on ne se casse pas la figure. De plus, on se fiche de salir ces godasses-là dans un champ ou dans une étable.
« Je crois avoir saisi, »
fit Sétal.
« La deuxième paire de bottes, c'est celle qu'on met tous les jours. Par exemple, le soir, quand on est invité à dîner chez des voisins, ou, dans mon cas, quand on doit aller se battre. Des bottes de qualité, avec lesquelles on marche d'un pas sûr, et qu'on n'a pas honte d'exhiber.
« Et la troisième paire ?»
fit Sétal, soucieuse d'accélérer le récit.
« On la réserve pour les grandes occasions. Les banquets, les bals, un dîner avec une huile locale. »
« Des bals? Une huile locale? Par les maudites cendres, femme! Je te prenais pour une aubergiste !»
Sétal rosit.
« Nous n'irons pas au bal, »
continua Matt.
« Mais si ça devait arriver, la deuxième paire conviendrait. Si elle est assez bonne pour rendre visite à la vieille dame Embrou, la fameuse voisine, pourquoi ne serait-elle pas parfaite pour écraser les orteils de toute femme assez folle pour danser avec un rustre ?»«
Alors, la troisième paire, elle sert à quoi ?»«
À marcher. » « N'importe quel fermier sait qu'il faut de bonnes bottes pour avaler de la distance. »
Sétal parut perplexe.
« D'accord. Mais quel rapport avec le fait d'être un noble ?»«
C'est évident !»
s'écria Matt.
« Tu ne vois donc pas ? Un type moyen peut savoir très exactement quelle paire de bottes choisir. Trois différentes, ce n'est pas la mer à boire. Je dirais même plus. Quand on a trois paires de bottes, la vie est simple. Mais les nobles... Talmanès se vante d'en avoir 40 chez lui. 40 paires ! Tu peux imaginer ça ?
Sétal sourit de plus belle.
40 paires !
Répéta Matt en secouant la tête.
40 fichues paires ! Et toutes ne se ressemblent pas, bien entendu. Une paire pour chaque tenue, et une dizaine dans des styles différents, adaptés à une bonne moitié des dites tenues. Il y a des bottes pour roi, pour haut seigneur et pour quidam lambda. Mais ce n'est pas tout ! Il existe aussi des bottes pour l'hiver et d'autres pour l'été. Des bottes pour la pluie et d'autres pour la sécheresse. Je ne parle même pas des simples chaussures qu'on met pour aller dans la salle des thermes. Lopine s'arrachait les cheveux parce que je n'avais pas de pantoufles quand je filais au petit coin la nuit.
Je vois. Tes bottes sont une métaphore. Elles représentent la multitude des responsabilités qui pèsent sur l'aristocratie, quand il s'agit de prendre des décisions politiques ou sociales complexes.
Une métaphore ? Par le maudit sang, femme ! Ce n'est pas une métaphore ! Juste une affaire de bottes !
Sétal secoua la tête.
« Tu es un homme à la sagesse peu conventionnelle, Matt Cotton.
Je fais de mon mieux,
dit Matt en s'emparant du pichet de cidre aux épices.
Pour ne pas être conventionnel, je veux dire.
Il remplit un gobelet et le tendit à Sethal, qui l'accepta, le vida, puis se leva.
Je vais te laisser à tes innocents amusements, Maître Cotton. Mais si tu fais des progrès au sujet du portail que j'ai demandé... Elaine affirme qu'elle en aura un pour toi très bientôt, un jour ou deux. Une fois de retour d'une mission que je dois mener avec Tom et Noal, je ferai en sorte qu'elle tienne parole.
Sethal hocha la tête. Si Matt ne revenait pas de cette mission, elle s'occuperait d'Olver. Matt attendit qu'elle soit assez loin avant de prendre une gorgée de cidre à même le pichet. Il faisait ça depuis le début de la soirée, mais Sethal aurait sans doute préféré ne pas le savoir. Le genre de grain qu'il ne fallait pas donner à moudre aux femmes. Matt se repencha sur les rapports, mais son esprit vagabonda, l'entraînant à repenser à la tour de Genjai, et à ses fichus serpents et renards. Les révélations de Birgit étaient très instructives, mais pas particulièrement encourageantes. Deux mois à errer dans ces couloirs? Un sacré bol d'inquiétude bien fumante servit comme une bouillie vespérale. Au-delà de ça, Moiraine avait parlé de feu, de musique et de fer. Violer les règles n'était pas une idée aussi originale qu'on l'aurait cru. Rien qui pût étonner Matt. Selon lui, après que la lumière eut créé le premier homme, celui-ci s'était empressé d'inventer la première règle. Aussitôt né, le deuxième homme avait pensé à un moyen de la contourner. Pour dire les choses autrement, les gens comme Elaine édictaient des lois qui les arrangeaient, et les types comme Matt imaginaient la meilleure manière de passer outre. L'ennui, c'était que Birgit, qui comptait parmi les légendaires héros du corps, n'avait pas réussi à vaincre les Aelfin et les Eelfin. Au minimum, c'était déconcertant. Mais Matt disposait d'un atout que l'archer n'avait pas eu, sa chance. Adossé à son siège, il se plongea dans une profonde méditation. Clintock, un de ses soldats, passa devant lui et le salua. Toutes les demi-heures, les bras rouges venaient voir si leur chef allait bien. À l'évidence, il n'était pas encore remis de la honte d'avoir laissé le golem entrer dans le camp. Matt reprit la lettre de Vérin et la froissa entre ses doigts. Les coins usés, les taches. De nouveau, il tapota la table avec la missive. Puis la jeta à côté des rapports. Non, pas question de l'ouvrir, même quand il reviendrait de sa mission. Un point et c'était tout. Ce que disait ce texte, il ne le saurait jamais. Et ça ne l'empêcherait pas de dormir. Se levant, il partit en quête de Tom et de Noal. Le lendemain, ce serait le grand départ pour la tour de Genjai.